Je suppose que la vie renferme plusieurs miracles, mais il n'y en a aucun qui soit plus fascinant pour moi que le miracle de l'engendrement humain. Du moins, ces miracles physiques que nous voyons à chaque jour et auxquels nous ne pensons pas réellement, surviennent à chaque fois qu'il y a engendrement d'un être humain. On pourra même parler de celui des animaux puisque le principe est le même. Il n'y a pas de doute que l'engendrement spirituel par Dieu est sans doute le miracle le plus grand qui puisse exister en fait d'engendrement. Et ce n'est pas quelque chose qui est directement visible. Vous pouvez savoir que cela se passe parce que vous êtes témoin d'un baptême. Mais cet engendrement-là est réellement miraculeux. Vous avez d'abord un tout petit ovule, hein, de la taille de la pointe d'un crayon aiguisé, ce qui représente à peu près 0,05 millilitres, je crois. Alors, il est important que vous réalisiez que c'est de la taille de la pointe d'un crayon aiguisé. Et c'est le corps de la femme qui produit cet ovule-là. De plus, par comparaison, vous avez cette minime, tout à fait minime petite chose que l'on appelle la cellule spermatozoïde qui disparaît littéralement à côté de l'ovule qui est beaucoup plus gros, bien qu'elle soit de la taille de cette pointe de crayon. Ce spermatozoïde va aller s'enfoncer et fusionner avec l'ovule et vous avez une vie qui commence. Dieu voulait littéralement que la vie commence à cet instant. Monsieur Armstrong avait coutume au début de croire que la vie commençait au moment du premier respire parce que Dieu avait mis de l'air dans les narines d'Adam, avait mis le souffle de vie dans ses narines. Et c'est à ce moment-là qu'il était devenu une âme vivante. C'est vrai qu'il est devenu à ce moment-là une âme qui respirait, hein, un nephesh à ce moment-là. Mais, Monsieur Armstrong, lorsque le débat sur l'avortement a commencé à faire son apparition dans les années 70, vous vous souvenez le cas de Wade contre Roe, ainsi que d'autres débats qui se sont développés au sein de l'Église, ceci a fait en sorte que les gens ont commencé à s'interroger. Les gens disaient, peut-être qu'il y a des exceptions, peut-être est-ce que nous pourrions en fait avoir un avortement dans certaines circonstances extrêmes, comme le viol ou l'inceste, hein, etc. Peut-être que Dieu se détournait la tête en quelque sorte quelques instants puis disait « Oui, c'est correct, vous pouvez prendre une vie humaine. » Alors, M. Armstrong a décidé de réviser le moment où la vie commençait et il en est venu à la conclusion que « Oh, minute là, cette vie commence lorsque vous avez l'engendrement et non pas 9 mois plus tard lorsque vous prenez votre premier souffle. » Et je me souviens à ce moment-là avoir pensé « Wow, c'est fascinant ça. » Parce que moi, j'ai une sœur plus âgée et un frère plus jeune que moi. Mais avant que ma sœur naisse, ma mère avait eu une fausse couche. Et ça m'avait toujours poussé à me poser la question, est-ce qu'un jour j'aurai une autre sœur ou un autre frère plus âgé? En réalité, ils vont être plus jeunes, puisqu'ils vont être ressuscités lors du jugement du grand trône blanc. Alors je me posais cette question-là parce que nous étions face à ce qu'on pourrait appeler un avortement spontané, à une fausse couche, comparé à ce que certaines personnes ou certains hommes provoquent. Alors, permettez que je le répète. Une fois que cet engendrement-là a eu lieu, Dieu voulait que ce soit à ce moment-là que la vie commence et qu'elle se poursuive pendant toute la période de gestation pour ensuite se poursuivre sans arrêt, pour quelque raison que ce soit, pendant toute une vie bien remplie, et ultimement se poursuivre jusque dans le royaume de Dieu, si les gens avaient mangé du bon arbre. Voilà quelles étaient les intentions de Dieu. Or, nous savons que les hommes ont redéfini le moment du début de la vie. Dans la majorité des cas, ils ne croient pas qu'il y a un Dieu derrière tout ce processus. Mais si on s'y arrête et on réfléchit, si on réfléchit à toutes les choses qu'ils peuvent arrêter une vie, empêcher une vie d'atteindre la maturité, c'est quelque chose, je crois, que j'ai vu dans la page 1 du Beacon Journal aujourd'hui. On avait un article sur cette vieille dame de 110 ans qui célébrait son anniversaire. Je crois que c'était à Akron, ici, pas très loin. Donc, elle avait 110 ans et il parlait de toutes les choses qui étaient arrivées depuis sa naissance, qui était en 1890. Il parlait de son père et de son grand-père, ou si je me souviens bien, à propos de la ferme de son père. Puis elle parlait de ce temps-là en disant que vous y aviez les Raiders, hein, les de Morgan, qui avaient traversé la ferme de son père pendant la guerre civile. Alors, je crois que c'était aussi une partie d'un article que mon épouse me lisait, hein, dans le sud de l'Indiana, lorsqu'il avait traversé la rivière Ohio. Alors, c'était quelque chose de fascinant. Les frères Wright n'avaient pas fait encore leur premier vol, et la majorité des choses que nous prenons pour acquises aujourd'hui n'avaient même pas été créées encore, incluant l'automobile et toutes ces choses-là. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez à toutes les choses qui pourraient empêcher une vie d'atteindre, par exemple, 70 ans, ou comme le psaume le dit, pour les plus robustes, 80 ans. Alors on parle là d'une vie bien remplie, hein? Réfléchissez à ça. Je me souviens, il y a de cela plusieurs années, 21 ou 22 ans, m'être rendu lors d'une mission qu'on m'avait confiée, rencontrer une personne, m'être assis avec cette femme-là et avoir commencé à parler. Et elle me dit, Monsieur Pack. Puis elle éclata en sanglots. Hein? C'était une gentille femme, c'est une femme que j'avais baptisée, une des personnes les plus douces que je n'avais jamais rencontrées. Elle avait eu 3 enfants. Et après est tombée enceinte de son 3e enfant, en plein milieu de sa grossesse, son mari l'a tout simplement abandonnée en Caroline du Sud. Elle avait déménagé chez une parente à ce moment-là, dans l'État de New York, et nous essayons de l'aider, à remettre quelque sorte sa vie sur du bon côté. Alors elle est tout à coup tombée en dépression, s'est sentie tout seule, elle a fait quelques sorties. Et elle a eu une aventure alors qu'elle était dans l'église. Elle est tombée enceinte encore, et ne voulant pas confesser cela à moi, pas confesser sa fornication, elle avait subi un avortement, et cela l'avait totalement dévastée. Et j'essayais de l'aider, moi, à réaliser ce qu'elle était venue me confesser. Elle me disait, j'ai assassiné mon fils qui n'était pas encore né, Monsieur Pack. Et elle pleurait, elle avait de gros sanglots. Et je crois que mon épouse était avec moi lors de cette visite-là. Oui, elle me fait signe que oui, elle s'en souvient. Et cela avait dévasté complètement cette dame-là. Et je n'ai jamais dit à personne, hein, à qui que ce soit, qui était cette femme-là. Mais pour raccourcir une histoire qui pourrait être longue, elle pouvait être pardonnée par Dieu. Mais pour le restant de sa vie, elle devrait se rappeler cette chose-là. Et se rappeler que cet enfant-là était toujours mort maintenant. 21 ans ont passé en date d'aujourd'hui. Et si cet enfant-là était vivant, il aurait l'âge de ma fille. Ils ont été conçus à peu près à la même époque, mais il est parti. Alors bien sûr, ma mère a fait une fausse couche à un moment donné. Il y a beaucoup de gens qui font des fausses couches, même plusieurs. Ma mère, en fait, est née alors qu'elle avait 7 mois. Presque exactement 6 mois. Je pense que je vous ai déjà mentionné ça. Elle pesait 2 livres et 3 onces. Et le médecin était capable de la tenir dans une seule main et elle pouvait coucher dans une boîte à souliers. Elle était petite à ce point-là. Et pourtant, elle a cru, hein, elle a grandi, elle est devenue suffisamment forte pour me faire, moi, à la taille que je suis maintenant. Alors je regardais ça. Vous savez, 2 livres et 3 onces, c'était un défi médical extraordinaire en 1921, lorsque ma mère est née. Être capable de maintenir en vie un enfant qui est aussi petit que ça, hein, les mettre dans l'incubateur et tout ce qu'il faut faire, était un défi absolument énorme. Mais on sait qu'éventuellement, les gens ont commencé à trouver des façons de conserver la vie à des enfants de 2 livres. Puis ensuite, ils ont été capables de tomber sous ce seuil-là. Ils étaient capables de conserver la vie à des enfants qui pesaient 1 livre et demi. Et ensuite, ils sont tombés à des enfants de 19 onces. Les poumons étaient à peine développés lorsque ces enfants-là naissaient. Alors, on parle d'un enfant qui est extrêmement petit à ce moment-là. Puis, pour la première fois, ils ont réussi à conserver la vie à un bébé de 16 onces, hein, 1 livre. Et de nos jours, l'enfant le plus petit qu'ils ont réussi à conserver en vie pesait 14 onces et demi. ce qui représente un petit peu plus que 90% d'une livre. Et ce qui est ironique dans tout cela, c'est que la femme qui a mis au monde cet enfant-là pesait, elle, 310 livres lorsque le bébé est né. Dans certains sens, c'est peut-être ça l'histoire la plus extraordinaire. Mais plus petit que cela, les bébés meurent tout simplement parce que les lois, hein, qui contrôlent le corps ont été transgressées. Et ces enfants-là n'ont jamais été conscients qu'ils étaient en route vers quelque chose qui leur avait été enlevé. S'il y a une chose de bonne à ce sujet-là, c'est que d'une façon ou d'une autre, Dieu un jour va ramener ces enfants-là à la vie et nous allons voir comment tout cela va se produire. Mais ces enfants-là vivaient. Et puis parfois, vous avez des enfants prématurés qui naissent. Hein? Ils n'ont pas eu de fausse couche, ils naissent, puis ils ne réussissent pas à continuer à vivre. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certains États où vous allez avoir ces deux concepts-là de fausse couche et de prématuré qui sont en quelque sorte mélangés, parce que vous allez avoir des États qui vont permettre l'avortement jusqu'à l'âge de 9 mois. Et comme vous le savez, certains médecins vont plus ou moins s'introduire et vont empoisonner ces enfants-là. J'ai vu ce genre d'image-là. C'est quelque chose d'absolument nauséabond. Ce qu'ils vont faire, ils vont prendre l'enfant et le faire descendre au niveau du vagin en le tournant de côté, et ils vont faire sortir l'enfant sauf la tête. Et d'une façon délibérée, ils vont arrêter en laissant la tête à l'intérieur, de façon à ce qu'ils puissent dire que cet enfant-là n'est pas encore né. Puis ils vont tout simplement détruire la tête de l'enfant alors qu'il est toujours à l'intérieur du corps de la femme. Alors je regrette de vous dire des choses comme ça, mais c'est ce qui arrive à des milliers d'enfants dans ce pays-ci. Ce qu'on appelle des avortements pour naissance partielle. Donc ils vont tout simplement détruire la tête de l'enfant et faire sortir le bébé par la suite. Parfois, accidentellement, de temps à autre, un enfant va naître vivant, un enfant qu'ils ont essayé d'empoisonner à mort, avec des solutions salines et d'autres choses. Et au moment où cet enfant-là sort, légalement maintenant, vous devez faire tout ce qui était possible, même prendre des mesures héroïques pour maintenir cet enfant-là en vie, parce que maintenant, il est sorti du sein de la mère. Donc, la définition de la vie pour l'homme, c'est lorsqu'il sort du sein de la mère. Et même si vous avez essayé de le tuer alors qu'il était dans le sein, s'il sort et que vous avez raté votre coup, alors vous pouvez être poursuivi. Le même médecin qui a essayé de se débarrasser du corps d'un enfant en le massacrant comme il l'a essayé alors qu'il était à l'intérieur, et ça peu importe l'âge qu'il peut avoir depuis le début de la grossesse, maintenant qu'il a raté son coup, il doit utiliser toute son énergie avec tous ceux qui sont autour de lui à l'hôpital pour essayer de sauver maintenant cet enfant-là qu'il a presque empoisonné à mort. Et c'est le genre de choses qui se passent couramment, le genre de choses auxquelles vous et moi ne pensons pas. Et puis, vous avez bien entendu aussi des bébés qui tout simplement sont morts-nés. Les maladies vénériennes, entre autres, peuvent être la cause de cela. Et vous avez des malformations qui sont produites parfois dans le sein de la mère qui peuvent être la cause de ce genre de choses-là aussi. La mère peut être dans un accident d'automobile ou vous avez comme cet ami de fille, hein, la fiancée de ce joueur de football, par exemple. Il a décidé, lui, qu'il ne voulait pas d'enfant. Et cette fiancée est tombée enceinte de lui, hein, de son propre enfant. Alors, il a engagé deux tueurs à gages et il se tenait près d'un pâté de maison avec son téléphone cellulaire à la main alors qu'elle passait devant lui. Et vous avez ces deux tueurs à gages qui sont passés à côté d'elle et ils l'ont assassinée en tirant sur elle au pistolet 4 fois. Elle était enceinte de 7 mois. Alors ils l'ont amenée d'urgence à l'hôpital en essayant de la maintenir en vie. Ils ont réussi à sauver le bébé. Ils ont réussi à faire sortir le bébé, mais éventuellement, elle est morte 7 semaines plus tard. Mais ils ont trouvé son fiancé qui se cachait dans le coffre d'une automobile à l'extérieur de la ville de Memphis, au Tennessee. Il s'était sauvé, il s'était enfui de Charlotte, en Caroline du Nord, et maintenant, aujourd'hui, ils exigent la peine de mort pour lui. Bien entendu, elle a déjà eu la peine de mort. Et la question qui se pose maintenant, est-ce que lui aussi devrait l'avoir? Parce que c'est le genre de question qui se pose aujourd'hui avec toutes ces âmes charitables. Et je dois vous dire que je trouve ça absolument fascinant. Hein? Si vraiment vous prenez le temps de jeter un coup d'œil à la politique de ce pays-ci, vous vous apercevez que les gens qui sont en faveur de la peine de mort sont également les gens qui sont pro-vie, ce qui est correct en passant. Ceux qui disent, c'est correct, vous pouvez assassiner des enfants dans le sein de leurs parents. Ces gens-là sont exactement les mêmes personnes qui disent, oh, la peine de mort est immorale. Le même genre de pensée libérale. Si quelqu'un décide un jour ou l'autre d'aller tuer une autre personne, ces personnes-là sont prêtes à se battre à la mort afin que personne d'autre ne puisse les mettre à mort. Ils vont faire des marches, ils sont prêts à faire tout pour que le même genre de pensée libérale empêche les gens de s'apercevoir qu'un bébé qui n'est pas encore né a été massacré. Et puis, bien entendu, vous avez les gens qui naissent. Hein. Ils peuvent mourir de maladies, peuvent mourir d'accidents. Un être humain sur 13 de nos jours, hein, qui vit sur la face de la planète, va être assassiné, hein, par quelqu'un d'autre ou par eux-mêmes, si vous voulez. Si vous regardez le monde, en général, je ne parle pas nécessairement aux États-Unis ici, mais sur la planète entière, les chances ne sont pas meilleures que 12 contre 1 que vous allez pouvoir mourir par la main de quelqu'un d'autre ou par votre propre main. Alors réfléchissez à toutes les choses qui existent aujourd'hui et qui peuvent empêcher cet engendrement miraculeux dont nous avons parlé au début. Tout est possible. Vous pouvez être en train de nager, hein, dans la mer, comme le mari de la propriétaire des Rams de Los Angeles. Alors il était tout simplement en train de nager, une vague l'a frappé, il a avalé de l'eau, il a tout simplement coulé et s'est noyé. Et sa femme, dont c'était le 7e mari, a hérité des Rams. En d'autres mots, était juste au bon moment, à la bonne place, au moment où son corps a été rejeté sur la plage. Et puis vous avez ce jeune homme de 22 ans, là, qui a été victime d'un hit and run, d'un délit de fuite, hein, mort. Alors rendez-vous dans Hébreux, au chapitre 9. Hébreux 9. Alors nous sommes à la saison de la Pâque, qui arrive. Et devons nous poser des questions fondamentales. Alors, Hébreux, chapitre 9 et verset 27. Alors, pendant la semaine qui vient de s'écouler, il y en a plusieurs parmi vous qui ont pris des rendez-vous, qui en ont rencontré. D'autres ont pris des rendez-vous pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un rendez-vous que vous avez et à propos duquel vous n'avez peut-être jamais pensé, tout simplement parce que l'heure n'est pas arrivée. En réalité, c'est un rendez-vous que vous aimeriez peut-être ne pas avoir. Alors allons-y dans Hébreux 9 et verset 27. Et on peut y lire, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors avant de parler de ce rendez-vous-là, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que finalement tout le monde meurt? Quelle est la raison? Que ce soit lors d'un avortement, d'une fausse couche, hein, ou d'une naissance prématurée, ou un mort-né, ou même à cause de maladies, d'accidents, de meurtres, de suicides, ou tout simplement de vieillesse. Alors certains auront 80, 90 et même 110 ans. Alors peu importe, hein, l'âge à laquelle ils vivent, éventuellement, finalement, tout le monde meurt. Pourquoi? Pourquoi? Quand le verset dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois », alors pourquoi? Parce que personne parmi vous ne veut tenir un tel rendez-vous. C'est le genre de rendez-vous que si vous aviez le moyen de le rater, vous le rateriez. Ponce de Léon a été à la recherche de la fontaine de Jouvence à un moment donné, justement parce qu'il ne voulait pas se rendre à ce rendez-vous-là. Vous savez, je me suis déjà tenu pas loin à Saint-Augustin, en Floride, où vous avez cette plaque-là où il dit que Ponce de Léon, lorsqu'il est venu ici, croyait qu'il avait trouvé la fontaine de Jouvence. Alors, il s'était rendu en Floride. Et bien entendu, ce n'était pas la fontaine de Jouvence. Et on peut dire que le monde entier essaie d'éviter d'aller à ce rendez-vous-là. Vous savez, ils vont mieux se nourrir, hein, pour avoir une vie plus longue. Vous savez qu'on dit qu'il y a des gens qui vivent présentement sur Terre qui vont vivre jusqu'à l'âge de 400 ans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est quelque chose que j'ai mentionné à la fête. 400 ans. Si nous avions toutes les technologies disponibles entre nos mains, Clic, comme ça. Ils pourraient vivre aussi longtemps que ça. Et cela même s'ils sont vivants encore, déjà, aujourd'hui. Et peut-être quelques autres clics qui pourraient se rendre jusqu'à 700 ans. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors rendez-vous dans Romains 6 et verset 23. Romains 6, verset 23, un verset que nous connaissons tous. Hein? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors on peut se demander, à quel point est important le salaire du péché? Quel est son impact? Je vais vous le dire, c'est la mort. Et quand on parle de mort, les gens ne croient pas que ce soit la mort. En réalité, ils disent que ça doit être quelque chose de différent de la mort. Ça ne peut pas être la mort. J'étais en train de regarder la télévision hier soir, sur un des réseaux de télévision. J'étais en train de parler de cette interview de Barbara Walters avec la famille Ramsey. Je ne me souviens pas son nom, John and Patsy Ramsey, je crois, qui était en train d'être interviewé. Il parlait de John Bennett, hein, Ramsey. Il parlait de ça parce que son meurtrier n'avait pas encore été attrapé et tout ce qui allait avec ça. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils croient que John Bennett est présentement vivant au ciel aujourd'hui, puis ils se sentent mieux à cause de cette idée-là. Ils se sentent mieux. Alors, je ne suis pas en train de dire que John Bennett était une pécheresse et a souffert le salaire du péché ici, qui est la mort. Mais vous savez, pour toutes les gens, toutes les personnes qui meurent, il y a trois versets qui sont en quelque sorte un problème. Et nous avions l'habitude d'entendre ces versets-là par le passé. Jamais personne ne m'avait parlé de ces versets-là, hein, sortis des psaumes, jusqu'au jour où je les ai lus à partir de la plume de M. Armstrong. Psaume 146 et verset 4. Hein, on va commencer au verset 3. Psaume 146, verset 3. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Et le mot hébreu « eshtona » signifie « leurs pensées périssent ». L'autre jour, j'étais en train de parler à quelqu'un qui n'est pas dans l'Église, hein, il n'y a pas tellement longtemps, et ils étaient en train de me parler à propos du concept du ciel. Et alors, je leur ai dit « Et qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et là, j'ai sorti les psaumes, hein, psaume 115 et verset 17. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. » Vous savez, Billy Graham dit que lorsque nous mourrons, hein, une des choses que l'on va faire, ça va être justement de célébrer, de louer l'Éternel, beaucoup. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'adonner avec le psaume 115, verset 17 ici. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Et puis, vous avez Ecclésiaste 9 et verset 5, hein? Ecclésiaste 9, verset 5, si vous voulez vous y rendre. Des centaines et des centaines de millions de personnes rejettent ces versets qui sont fondamentaux, frères et sœurs. Et vous les retrouvez directement juste là, dans votre Bible. Ecclésiaste 9 et verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce même jour, leurs pensées périssent. Et si c'est vrai, alors ils ne peuvent louer ou célébrer Dieu. Ils vont tout simplement dans le lieu du silence. Alors ce sont des versets qui sont fondamentaux, frères et sœurs, et tout le monde les rejette. Puis, bien entendu, il est écrit, on l'a donné, on l'a parlé, « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, alors que le salaire du péché, c'est la mort. » Ça ne dit pas que le salaire du péché, c'est une vie éternelle dans un enfer qui brûle tout le temps. Pas plus que ça ne dit que le don de Dieu est la vie éternelle au ciel. C'est pas une vie et une vie. C'est une vie versus la mort. Ce n'est pas une question d'une vie versus une autre forme de vie ici, là. Tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de laisser la Bible s'interpréter elle-même. Ce qu'elle dit, c'est que vous êtes mort. Vous êtes absolument et totalement mort. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a ce rendez-vous? Pourquoi est-il réservé aux hommes de mourir une fois? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, les gens vont dire, la mort, c'est pas réellement la mort. Mais ce n'est pas ce que la Bible vous dit. Alors, 2 Corinthiens maintenant. Rendez-vous à 2 Corinthiens au chapitre 3. J'avais pensé à ce verset-là aussi. 2 Corinthiens, chapitre 3. Alors, rappelez-vous, nous sommes en train de nous poser la question, pourquoi est-ce que toutes les personnes n'importe quand après le moment de leur engendrement, jusque aussi loin qu'aurait pu vivre Mathusalem, par exemple, ou Methuselah, qui, en passant, aurait pu vivre plus longtemps, parce que Methuselah est mort lors du déluge. Il a été l'être humain qui a vécu le plus longtemps. Il a même vécu plus longtemps que son propre fils, qui est mort 5 ans avant le déluge. C'était le grand-père de Noé. Et bien qu'il ait vécu aussi longtemps qu'il a vécu, il est quand même mort lors d'un accident, hein, ce que j'appelle un tragique accident de natation, parce qu'il n'était pas capable de nager pendant plus de 6 mois. Alors, 2 Corinthiens 3 et verset 5. Alors, c'est Paul qui parle ici, bien entendu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors, toute personne qui est capable de concevoir quelque chose comme venant d'elle-même est en mauvaise posture. On a toujours ce rendez-vous à la fin. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans l'Ancien Testament, si vous aviez péché, vous mourriez. Si un jeune homme de 16 ans avait maudit ses parents, hein, perdait la tête, violait le 5e commandement, cet enfant-là était amené devant les anciens. Deutéronome est très clair à ce sujet-là. Vous ameniez l'enfant dans le champ en avant et vous le lapidiez. Il n'avait jamais l'occasion d'être capable de croître, de grandir et de se corriger de cette attitude-là. Et en fait, la personne qui lançait la première pierre, c'étaient les parents, parce que leur enfant n'était pas seulement quelqu'un qui les avait maudits, mais était aussi un enfant rebelle. Et ce que sous-entendent les versets ici, c'est que cet enfant-là ne pouvait être contrôlé. Alors, il était dit ici, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. J'ai eu des mauvaises attitudes alors que j'étais adolescent. Et aujourd'hui, je suis très heureux de ne pas avoir été lapidé. Alors, je suis toujours ici et j'ai appris un tas de leçons depuis ce moment-là. Mais c'est à se demander quel adolescent aurait pu survivre à ce genre de choses-là. Mais je pense que je peux vous dire que si vous aviez vu des adolescents perdre la tête vis-à-vis de leurs parents et les voir mourir sous un tas de pierres, vous savez, vous y auriez pensé à 2 fois avant de faire la même chose. Voilà ce que ces bonnes âmes charitables qui veulent sauver les criminels oublient au sujet des gens qui sont morts dans la tombe présentement et qui ne peuvent être sauvés. Ils semblent oublier ce genre de choses-là. Verset 7 maintenant. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Avez-vous entendu ça? C'était un ministère glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ça a été remplacé par les promesses du Nouveau Testament et de la miséricorde de Christ. Verset 8, « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » En fait, beaucoup plus. Le Nouveau Testament est de loin supérieur à l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance était essentiellement un accord physique. Dieu disait, « Tu fais ceci, je vais faire telle chose. » En gros, si on le passait aujourd'hui, on dirait, « Top là, on se serre la main. » C'est d'accord. Tu me payes 100 000 $, moi je te construis une maison. C'est un contrat. On pourrait l'appeler l'Ancien Contrat. Le Nouveau Testament, quant à lui, est le Testament de Christ. Nous pouvons être pardonnés et hériter les choses qu'il nous lègue à nous pour toute l'éternité. Et une des choses qu'il nous lègue dans cette vie actuelle, c'est sa miséricorde, de façon à ce que nous puissions nous rendre jusqu'à l'éternité. Mais comme nous venons le voir, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est écrit ici que c'était glorieux. Alors pourquoi est-ce que ça dirait une telle chose? Une des raisons, en passant, pour lesquelles c'était glorieux, c'est parce que ça débarrassait la société de ceux qui étaient méchants. Et ça n'était pas fait, ça, en privé, à l'intérieur d'une chambre à gaz, où vous aviez les parents de la victime qui le regardaient, peut-être même le shérif, mais quelques autres personnes, des officiels de l'État ou du gouvernement, ainsi qu'une couple de personnes qui injectent un poison, par exemple, ou tirent la clenche, ou pèsent sur le bouton qui va faire en sorte que le gaz va s'échapper pour tuer la personne. Peut-être que vous allez trouver aussi un reporter d'un journal qui va être là, pas tellement loin, un journaliste. et qui va dire que le condamné est mort paisiblement ou qu'il est mort de telle ou de telle façon. Dans l'ancien temps, c'était fait directement là, publiquement, devant toute la société, ceux qui étaient méchants. Tout se faisait extrêmement rapidement et les gens se disaient, pas question pour moi de mourir de cette façon-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était littéralement une expérience fracassante. Et c'est ce dont les gens étaient témoins. Les têtes étaient fracassées. Savez-vous, par exemple, que lorsque le président McKinley a été assassiné, il y a 99 ans et 6 semaines de cela, ils ont pendu son assassin 6 semaines plus tard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De façon typique, si quelqu'un tue une autre personne, ils vont vivre en moyenne 12 ans de plus. Aujourd'hui, c'est plus dispendieux de tuer quelqu'un qui a commis un meurtre, qui a été accusé et reconnu coupable, que ça ne l'est pour le mettre en prison pour la vie. Savez-vous pourquoi? Parce que, approximativement pour 700 000 $, 7 dixièmes d'un million de dollars, vous pouvez incarcérer quelqu'un pour sa vie entière. Vous ne demandez pas pour la peine de mort. Vous leur donnez une sentence de vie. Ils sont condamnés, c'est fini. Donc, approximativement, pour le criminel moyen, pour un âge moyen, ça va coûter environ 7 dixièmes de million de dollars pour prendre soin de lui pendant sa vie. Alors, j'ai déjà dit, voilà déjà une bonne raison pour les mettre à mort. Et en fait, les tuer aujourd'hui coûte 1,7 million de dollars. Alors, vous n'avez qu'à faire le calcul. Peut-être que vous allez vous poser la question, comment ça se peut? Vous n'êtes même pas obligé de prendre soin d'eux autres. La réponse est assez simple, c'est avec tous les coûts des processus d'appel, toutes les requêtes, tous les avocats, tous ceux qui s'impliquent à un moment donné dans le dossier, les frais de cour et tous les autres coûts adjacents, même si vous en venez à réussir à les mettre à mort à la fin de la période de 12 ans, ça vous aura coûté à peu près 2,5 fois plus que de lui donner la condamnation à vie. Donc, les prosécuteurs aujourd'hui disent tout simplement, donnez-leur une sentence de vie. Et le diable s'est organisé pour que suive cette administration glorieuse qui amenait la mort aux méchants autrefois, que la société aujourd'hui soit prête à payer pour chaque personne au-delà d'1 million de dollars de plus au lieu de les faire mourir immédiatement. Alors, certains États sont prêts à faire ça, d'autres ne le sont pas. Mais une chose, cependant, aussi glorieuse que cette façon-là était, ceux qui avaient fait le mal et dont la société était débarrassée étaient toujours morts. Ils n'obtenaient pas de chance de se repentir. Et je parle des condamnés ici, non pas des gens qu'ils avaient tués. Vous savez, quand Dieu disait « Tu enlèveras ainsi le mal du milieu de toi », ces personnes-là étaient parties. Il n'était pas question de mettre ces gens-là en arrière de fils barbelés, en arrière des murs, avec des gardes qui étaient dans des tours, avec des mitraillettes et des chiens, et toutes sortes d'autres moyens. On s'en débarrassait, simplement. Et les coups qui étaient entraînés, c'était juste quelques personnes qui lançaient des pierres. Mais le problème ici, c'est que ces gens-là sont toujours morts. Ils ont réussi à se rendre à leur rendez-vous, d'Hébreux 9, 27, mais ils sont morts. Et puis les gens inventer toutes sortes de faussetés pour expliquer que les criminels ne sont pas morts. Vous avez par exemple Babyface Nelson, qui avait été mis à mort. Sa mère avait dit qu'elle savait qu'il était rendu au ciel. Bien entendu, Babyface, avant de mourir, je pense que c'était dans les années 30, croyait, lui, qu'il était une victime. Vous avez aussi John Gotti qui croit toujours qu'il est une victime. Et vous avez énormément de gens qui croient qu'ils sont des victimes. Il n'y a plus de coupables aujourd'hui dans la société. Il y a seulement des victimes. Donc, vous avez un travail difficile à accomplir si vous êtes un prédicateur et que vous devez faire célébrer les funérailles d'un babyface ou encore d'une autre personne qui est un criminel. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui va s'arrêter pour dire « Vous savez que tous les autres vont au ciel. Mais je veux vous dire à vous, sa famille, ses parents de ce criminel-là, que présentement, ce gars-là est en train de rôtir à quelque part dans le tréfonds de la terre. Et je n'irai pas vous dire qu'il a été au ciel. Non, ils vont parler à propos de la miséricorde de Dieu et comment il s'est repenti pendant qu'on est en train d'y faire l'injection ou quelque chose comme ça. Ou ils vont utiliser une espèce de théologie tordue pour arriver à une conclusion autre que la mort. Et même s'il disait qu'il est en train de rôtir en enfer, ça ne serait pas vrai non plus. Parce que ça représenterait quand même la vie, alors que Dieu dit qu'ils sont morts. Les gens ont fait toutes sortes d'inventions fausses, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la mort. Monsieur Armstrong a préparé un service funéraire qui, en gros, dit tout simplement que lorsque les gens sont morts, ils sont morts. C'est fini. Et c'est un passage que nous devions inclure. Je ne sais pas combien de services funéraires j'ai fait. Il y en a eu un bon nombre pendant toutes les années que j'étais dans le ministère. Et ça fait déjà au moins une couple d'années que je n'en ai pas fait maintenant, presque 2 ans. Mais une des choses que je peux vous dire, c'est qu'il y a un bon nombre de passages que M. Armstrong voulait que nous soulignions. Le monde a une vision de la mort un peu comme si c'était un bon vieil ami que l'on rencontre au bout de la route. Alors ça sonne un petit peu poétique et philosophique, et ça prend un peu une approche douce à la rencontre de cet ami. La mort n'est pas un ami, et la Bible est très directe à ce sujet. C'est un ennemi, elle n'est pas un ami. Mais ce genre de choses-là est fait pour essayer d'enlever le chagrin et la tristesse. Mais en réalité, ce que les services funéraires font, ils n'enlèvent pas la tristesse ou le chagrin. La seule chose qui enlève réellement la tristesse et le chagrin, c'est la vérité. Je le répète, la mort n'est pas un ami, c'est un ennemi. En réalité, ce qu'on peut dire, c'est que la parenté vient au service funéraire aujourd'hui de façon à ce qu'on puisse lui mentir pour la faire se sentir bien. Si on avait à décrire les centaines et les centaines de millions de services funéraires, aujourd'hui, on verrait que les gens ont peur de la mort. Ils ne devraient pas avoir peur. Il y a une expression qui existe en anglais et qui s'appelle « death grip ». C'est comme la poigne de la mort. Lorsque quelqu'un serre quelque chose au moment de mourir, ça existe ça. Et ça vient de la peur que les gens ont. Et je suppose que si j'y pensais, peut-être l'exemple le plus émouvant de ce genre de poigne de la mort dont j'ai entendu parler, c'était ce gars-là qui travaillait sur un porte-avions à un moment donné dans une cale sèche de la Navy. C'était un gros homme. Il était en train de transporter une brouette de ciment à travers le pont. Et tout à coup, il a glissé sur le côté du pont et a tombé à l'extérieur. Il tenait dans ses mains cette brouette-là, et l'eau dans laquelle était le bateau avait une profondeur d'une trentaine de pieds à ce moment-là. Et il est tombé immédiatement, il a coulé. Alors les plongeurs se sont rendus dans le fond pour aller le chercher, puis ils l'ont trouvé, noyé bien entendu, et il tenait toujours sa brouette d'une façon tellement serrée qu'ils ont été obligés de détacher un doigt après l'autre pour être capable de lui enlever. Il avait ce qu'on appelait ce fameux « death grip-là ». La peur l'a tué. C'est vraiment ce qu'on a pu appeler une poigne mortelle. Et les gens vont faire ce genre de choses-là. Vous avez même des gens qui sont au volant des automobiles lorsqu'il y a un accident à un moment donné. Ils vont serrer tellement leur volant, tellement fort, que ça va même leur déchirer les bras. Les enquêteurs vont regarder et vont parfois trouver des mains qui sont attachées encore au volant. Tout ce que la personne aurait eu à faire, souvent, ça aurait été de laisser aller le volant, sortir et de nager vers la surface. Vous savez, les sauveteurs sur les plages nous disent « faites attention, les gens deviennent extrêmement forts, ils ont une surdose d'adrénaline, ils deviennent extrêmement forts ». J'ai été moi-même sauveteur et j'ai eu à enseigner ça à plusieurs reprises en disant aux gens « faites attention, des gens qui sont plus petits que vous peuvent vous noyer. Ils vont vous saisir avec cette poigne mortelle-là et tout cela pour essayer de sortir de l'eau. » Ils vont vous agripper la tête. Ils vont essayer de faire de vous comme une île. Et c'est ce qui va vous pousser en dessous de la surface de l'eau et qui va automatiquement vous noyer. Donc, vous êtes averti, si vous avez quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle, qui est en train de bouger dans tous les sens et tous les côtés, restez assez loin de lui de façon à ce que ce soit eux qui en subissent dans le fond les conséquences et que vous ne soyez pas, vous, la victime de leur poigne mortelle, là, ici. Les gens ont peur de la mort. Alors, comme on le dit, vous savez, c'est un rendez-vous que vous avez à rencontrer. Et moi, j'ai souvent pensé, j'aimerais bien mourir pendant mon sommeil. Je ne peux pas dire que j'ai hâte de mourir. J'aimerais vivre aussi vieux que ma grand-mère, 92 ans. J'aimerais vivre une vie pleine. Je n'ai pas peur de la mort. Lorsque vous comprenez la mort, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'elle. Vous n'avez pas besoin de la craindre. Rendez-vous dans Actes, au chapitre 2. Alors, on parle toujours du sujet de la Pâque ici. Et on se demande, quelle est l'importance de l'amende pour le péché? Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, jusqu'à quel point, quelle est l'importance de cette amende-là? Actes, chapitre 2 et verset 23. Actes 2, 23. Alors, en parlant de Christ, là, ici, au verset 22, « Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Verset 23, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté, hein, un dessein qui était prémédité, qui était voulu, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Voilà comment c'est appelé, des liens de la mort. Et ces liens-là peuvent être détachés de façon aussi certaine que les doigts de cet homme qui était sur les poignets de sa brouette remplie de ciment ont pu être lâchés, doigt après doigt. Les liens de la mort n'ont pas été détachés à ce moment-là pour cet homme, mais plus tard ils le seront pour lui comme pour tout être vivant, tout comme ils l'ont été pour Jésus-Christ, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Jamais il n'avait été dans le dessein de Dieu ou le plan de Dieu qu'il meure pour toujours, pas plus qu'il est dans selon les plans de Dieu que tout être humain meure pour toujours. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, mais nous aurons l'occasion de revenir à cela. Donc, Dieu a perdu son seul fils à la mort. Par contre, il savait qu'il le reverrait 72 heures plus tard. Mais nous savons que Dieu avait été aussi Jésus-Christ, était la parole pour toute l'éternité. Et jamais, même pour une fraction de seconde dans toute cette éternité-là, Dieu et le Christ, alors à ce moment-là qui était appelé la parole, celui qui n'était pas encore son fils engendré, mais qui était le même être, le rocher, le Dieu de l'Ancien Testament, etc., celui qui avait créé l'univers, créé la terre, qui l'avait recréé, jamais Dieu et lui n'avaient été séparés même une fraction de seconde. Et il savait qu'il était pour être tenu au loin de lui pendant un certain temps. Les circonstances atténuantes dans ce cas-là, c'est que cela ne durerait que pour 72 heures. Mais ces 72 heures-là seraient totalement nouvelles pour le Père, parce que jamais ils n'avaient été séparés. Maintenant, on peut peut-être jeter un coup d'œil selon la perspective de Christ ici. Si vous croyez que ça a été difficile pour le Père d'être séparé de son Fils pendant 72 heures, et je peux certainement croire que ça l'a été, réfléchissez à Christ maintenant, qui lui, comme n'importe quel autre, n'aurait plus de pensée, parce que ses pensées périraient le même jour comme n'importe quel autre être vivant. Il fut totalement mort pendant 72 heures. Il n'était pas en train de prêcher aux esprits en prison, là. Les gens modifient, changent et corrompent ce verset-là dans 2 Pierre. Il était absolument mort. Et s'il ne l'était pas, ceux qui enseignent, d'une façon ou d'une autre, cette doctrine-là, c'est la doctrine de l'Antéchrist. Et nous n'avons pas de sauveur. Et on ne peut certainement pas dire qu'un tiers de lui est en quelque sorte prisonnier de cette espèce d'entité trois en un de la Trinité, cette espèce de Christ hypostatique, éternel et infini, comme un des anciens philosophes grecs a essayé de le dire un jour à l'Église, alors que le Christ psychique glorifié était venu ici sur la terre pour mourir. Ce second Christ serait supposé être descendu ici et être mort, alors que le vrai, entre guillemets, Christ était resté prisonnier, lui, de ce trois dans un, Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité. En fait, ils avaient un problème, parce qu'on ne sait pas comment un tiers de ces personnages-là peut mourir, alors que le reste vivant. Et c'est le genre de choses qu'ils disaient, parce qu'ils disaient, on a un problème, on ne comprend pas comment un tiers de cet être-là peut mourir, donc nous sommes obligés de conclure qu'il n'est pas mort. Alors, ce genre de choses, bien entendu, est absolument la doctrine de l'Antéchrist. Et si c'est ça, alors nous n'avons aucun sauveur. Mais je suis capable de comprendre que le diable aimerait bien faire sortir ce genre de théorie-là. La réalité, c'est que Christ devait mourir. Il devait faire face à la mort. En fait, il avait dû y réfléchir longtemps, très longtemps d'avance, avant que cela ne se produise. Je n'ai aucune idée à quel moment cette pensée a dû entrer dans l'esprit de Christ, qui devait mourir. Mais c'est quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Vous et moi n'avons pas connu encore la mort, mais nous n'avons jamais vécu pendant toute l'éternité non plus. Peut-être avons-nous connu la mort parce que nous l'avons vue juste de la même façon que Christ a vu la mort chez les autres. Mais cet être-là qui avait vécu pendant toute l'éternité devait appréhender et contempler le fait qu'il serait totalement coupé de son Père et qu'il devrait passer par des souffrances absolument horribles qui précéderaient cet état-là. Donc, du point de vue de Dieu, il n'a pas juste perdu Christ. Il a perdu le seul ami qu'il n'avait jamais eu à la mort. Rendez-vous dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Je pourrais vous demander de lever la main ici. Combien y en a-t-il parmi vous qui ont déjà perdu des amis à la mort? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous allons commencer au verset 51. 15-51, ce qu'on appelle le chapitre de la résurrection. 1-15-51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il y en a qui disent, oh, vous parlez de la doctrine du sommeil de l'âme ici. Lorsque vous mourrez, vous ne mourrez pas réellement, vous ne faites que dormir. Bien entendu, la Bible parle de la mort comme si c'était le sommeil. Vous savez, j'ai eu une très bonne nuit de sommeil la nuit dernière et je n'étais pas conscient que je dormais. Je savais que j'étais pour m'endormir et lorsque je me suis réveillé, je savais que j'avais été endormi et que j'avais dormi. Et comme je n'ai pas eu de rêve la nuit passée, parce que je ne rêve pas vraiment souvent, je dois vous dire que c'était comme la mort. Et effectivement, la mort ressemble beaucoup à cela. C'est comme le sommeil. Un est un peu comme l'autre. Vous savez, quand vous passez une mauvaise journée, et mon père avait, et ma mère aussi avaient l'habitude de dire, « Alors, demain est un jour nouveau. » Et moi, de mon côté, j'ai appris que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une journée, j'espère pratiquement que cela arrive vers la fin de la journée, parce que psychologiquement, je me suis aperçu que le sommeil est un peu comme un type de la mort. Donc, le verset 52 dit, « Nous serons changés. » Verset 53 maintenant, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Et verset 54, « Lorsque cela sera fait, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Alors, on parle à ce moment-là, pas aujourd'hui. C'est seulement à ce moment-là que nous aurons une telle chose qui va se passer. Aujourd'hui, la mort est victorieuse. Et éventuellement, nous aurons une victoire sur la mort. Verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Alors, ça ne te semble pas, ça, à un vieil ami qu'on rencontre sur la route à un moment donné. J'aimerais pas avoir un ami qui me piquerait comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui semble très plaisant. Alors, comme on peut le voir, jusqu'à ce point-là, c'est la mort qui a eu une victoire. Cela signifie donc que toute personne qui meurt a subi une défaite. Et si la mort a été victorieuse, alors toute personne qui se rend dans la tombe a été en quelque sorte aiguillonnée, a été piquée, a été frappée par la mort et la défaite qu'elle apporte. Alors, c'est plutôt clair. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché qui l'a entraîné, qui a été la cause. Il n'a jamais été dans les intentions de Dieu que les êtres humains meurent. Alors, rendons-nous dans Jacques, maintenant, au chapitre 2. Jacques 2. Tous les amis que Dieu a eus sont morts. Alors, Jacques 2, et au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Donc, Abraham est mort. Il est mort. Noé a vécu 950 ans. Mais vous savez quoi? Il est mort. Tous les prédicateurs de justice sont morts. Abel est mort. Abel le juste. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Isaac et Jacob, Moïse, David, Daniel, Élie. Vous vous rappelez que Christ a regardé tous ses apôtres lors de la dernière Pâque. Il a dit, « Je vous appelle mes amis. » Il leur a dit, « Un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais moi, je vous ai appelé mes amis parce que tout ce que mon Père m'a révélé, je vous l'ai dit. » Alors, je paraphrase un peu. Vous connaissez tous ces versets-là. Alors, bien entendu, Christ est mort en premier. Mais au moment où les apôtres sont morts, où ils étaient morts, ça faisait déjà un bon bout de temps que Christ était ressuscité. Et chacun des apôtres est mort, laissant Christ en fait seul, et ils sont toujours morts. Tous les serviteurs de Dieu, hein, tous ceux qui étaient les amis de Dieu. Et je suis certain qu'il ne s'agissait pas seulement d'Abraham ou des apôtres qui étaient amis de Dieu. Tous sont morts, sans exception. Vous savez que Paul Revere a vécu plus longtemps que tous ses amis. Et c'est une histoire qui est quand même assez intéressante. Vous vous rappelez, Paul Revere, celui qui criait « les Anglais s'en viennent ». Vers la fin de sa vie, Paul Revere est devenu un ivrogne. Hein, on disait de lui, il avait l'habitude de se tenir pas loin du cimetière, près de l'église, de la vieille église du Nord. Là, il jetait un petit coup d'œil à l'intérieur parce qu'il disait que la majorité de ses amis étaient là. Mais c'est une idée, à un moment donné, qui a eu le dessus sur lui, hein, que la plupart de ses amis étaient morts. Beaucoup qui sont ennemis de Dieu aujourd'hui deviendront des amis de Dieu. Ils peuvent peut-être être des ennemis aujourd'hui parce qu'ils sont confus et mêlés, peut-être parce que Dieu ne les a jamais appelés, ou quelle que soit la raison, mais ils pourront sans doute devenir les amis de Dieu. Et Dieu a un cœur suffisamment large pour être capable de comprendre que même la mort d'un ennemi n'est pas quelque chose qui lui apporte de la joie. Tous les saints que Dieu a engendrés, excepté pour ceux qui vivent toujours aujourd'hui, sont morts. M. Armstrong, qui était l'apôtre de Dieu et l'élite des temps de la fin, est mort. Dieu a perdu tous ses amis, et il attend patiemment. Vous et moi avons peut-être perdu quelques amis. J'ai personnellement perdu des amis qui m'étaient chers. Mon père, qui était mon meilleur ami, est mort. On a tous vu les films qui parlent beaucoup de la mort, de façon routinière même. Mais beaucoup de sang, beaucoup de violence, beaucoup de pertes de vie, beaucoup de cadavres mutilés. Les méchants sont généralement vaincus à la fin. Mais il n'y a pas beaucoup de films aujourd'hui qui ont une fin heureuse, et la majorité, un grand nombre de films n'ont pas de fin heureuse aujourd'hui, qui parlent des personnes qui sont mortes pendant le film. Et peut-être que le méchant est mort à l'intérieur du film, mais les gens vont tout simplement dire « Oui, hourra! » parce qu'il est mort de façon violente. Mais de toute façon, vous savez quoi? Les gens qui sont morts sont toujours morts. Et tous ceux-là ont été à leur rendez-vous beaucoup trop tôt à leur goût. Rendez-vous dans Genèse, chapitre 2, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 2. Il y a tellement de gens qui sont morts. Prenez le cas de cette petite fille de 6 ans, là, qui vient d'être tuée par un compagnon de classe de 6 ans également, qui avait un fusil chez lui. Bien entendu, tout le pays est en train de parler du sujet du contrôle des armes à feu. Hein. Ça a couvert le pays d'un bout à l'autre. Puis vous avez le président des États-Unis qui est en train de... littéralement massacrer Charlton Heston en disant « Pas même Moïse est capable d'empêcher cette loi-là, si vous l'avez écouté à la télé hier. » Charlton Heston est celui qui avait joué le rôle de Moïse en 1958, je pense, dans le film « Les 10 commandements ». Donc, Genèse 2, Genèse chapitre 2. Alors, tout le monde a toujours aimé croire qu'il ne mourrait pas. Genèse 2 et verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 16 maintenant, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Hein? Point à la ligne. Alors, c'est très clair ici. Chapitre 3 et verset 1 maintenant. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, je m'arrête ici et je vous pose la question fondamentale. D'où vient l'idée que la mort n'est pas réellement la mort? Et on poursuit. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Alors, le diable est intelligent. Hein? Il lui a posé une question. Vous savez, n'importe quel bon vendeur va s'organiser pour faire dire oui aux enfants. Plus de fois la personne va dire oui, plus vous les conditionnez pour le moment où vous allez frapper, lorsque vous allez lui demander la question. Hein? Combien est-ce que vous en voulez? Mon père était un maître vendeur. Il a travaillé pendant 19 ans pour la même compagnie, et il était le meilleur vendeur pour le pays entier. Il l'a été pendant 16 de ces 19 années-là. Il avait toutes ces plaques en argent là, que j'ai vues hein, sur le mur. Et un jour, vous avez un voleur qui est entré par effraction. Alors, c'était toutes des plaques en argent sterling. Et il les a toutes volées pendant que mes parents étaient à la fête, des années plus tard. Mais n'empêche que mon père était un maître vendeur. Et il avait l'habitude de me dire, fils, tu ne demandes jamais aux gens, est-ce que tu veux acheter? Éventuellement, après leur avoir fait dire oui, hein, comme le serpent en fait, tu arrives et tu leur dis, bon, alors combien en voulez-vous? Et il semblerait qu'il était très bon à ce petit jeu-là. Alors, à cette époque-là, il vendait de la peinture. Alors, on poursuit au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Or, on sait qu'au verset 17 précédent, Dieu a dit, tu mourras. Ensuite, il y a cet être-là, là, très intelligent, qui arrive à côté et qui dit, tu mourras pas. Il va rajouter quelque chose dans le sens que Dieu te cache quelque chose. Et verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, hein, effectivement, ils vont s'ouvrir, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En fait, la raison pour laquelle Dieu voulait qu'Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre de vie, c'est qu'ils puissent devenir dieux, hein, des dieux. Alors, ce que Satan a fait, c'est qu'il a pris la bonne conclusion et il a essayé de montrer, hein, ou de leur prouver que Dieu ne voulait pas qu'ils deviennent des dieux. Il leur disait, mais si tu suis ma façon de voir les choses, tu vas devenir Dieu. En fait, Dieu voulait qu'ils réussissent ou qu'ils aient cet héritage-là. Mais il leur avait dit, tu dois manger cet arbre-là, pas celui-là. Et le diable leur a promis exactement la même chose. C'est la façon dont il agit toujours. Il offre toujours une contrefaçon, des choses qui ressemblent. Mais dans ce cas-ci, ils devenaient des dieux avec un petit dé. Et bien sûr, l'arbre avait belle apparence, hein? Il était plaisant aux yeux, désirable pour rendre quelqu'un sage, pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7 maintenant, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre-là, du fruit de cet arbre-là, parce qu'il ne voulait pas qu'ils meurent. Et il leur avait dit la vérité. Le diable, lui, voulait qu'ils meurent. Et il leur a dit de manger de cet arbre-là pour qu'ils ne restent pas vivants, exactement l'opposé de Dieu. Dieu savait très bien que si c'est ce qu'ils faisaient, ils mourraient et il voulait qu'ils vivent. Et le diable, afin de les faire mourir, hein, parce qu'il ne voulait pas qu'ils obtiennent quelque chose que lui-même ne pouvait pas avoir, leur a dit qu'ils ne mourraient pas. Et ils ont mangé du fruit défendu et les gens meurent depuis ce temps-là. Et le résultat de cette décision-là, c'est que tout le monde maintenant a un rendez-vous aujourd'hui. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais Dieu n'avait jamais eu l'intention que les gens meurent. C'est l'humanité elle-même qui a choisi son chemin. Alors, retournons où nous avons commencé, dans Hébreux 9, et lisons un verset supplémentaire. Au lieu d'arrêter au verset 27, où nous avons commencé, nous allons lire quelques autres versets. Donc, Hébreux 9, 27. Alors, réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, verset 28, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pourquoi cela? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, et qu'il n'est pas dans les intentions de Dieu que les gens meurent, bien qu'ils aient toujours ce rendez-vous-là à observer. Même ceux qui sont présents lors du retour de Christ et qui sont vivants vont voir leur corps mourir. Leur corps physique va mourir, et ils vont être, eux, dans le royaume de Dieu. Ce ne sont que les gens qui vont être vivants à cette génération-là, hein, ces Philadelphiens qui vont naître dans le royaume de Dieu et qui vont naître à partir d'un état d'être vivant. Il va y avoir quelques membres de l'église de Sardes et quelques membres de Thyatire. Nous en avons parlé il y a quelques semaines de cela. Et on poursuit, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors c'est fascinant, hein, comme promesse. Alors, le verset 27 n'est pas exactement la fin de l'histoire ici, mais c'est quand même un rendez-vous que tout le monde devrait reconnaître. Nous savons depuis longtemps, frères et sœurs, qu'avant la Pâque, il y a des épreuves. Nous avons nos épreuves dans l'Église de Dieu restauré. Hein, et vous les avez dans votre vie personnelle. Et c'est peut-être une des preuves supplémentaires que nous sommes la véritable Église. Rendez-vous à 1 Corinthiens 11. Alors, nous sommes à une période un peu avant la Pâque, maintenant, et il y a certaines choses auxquelles nous devrions réfléchir. Vous allez devoir passer à travers les épreuves pré-pascales, si vous voulez les appeler ainsi. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer d'ici le prochain mois. Alors, nous sommes le 18 mars. Nous allons observer la Pâque le soir du 18 avril. Je pense que c'est la date. Mais je sais qu'il va y avoir certains genres d'épreuves qui vont survenir. Alors, voici un genre d'épreuve auquel personne ne s'attendait, mais qui a quand même été mis sur papier dans 1 Corinthiens 11 et verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ça me rappelle une hérésie qui avait été enseignée dans l'Église. Hein? Ce que ça signifie ici, là, c'est que c'est vraiment le repas du Seigneur. Et dans le temps, ils essayaient de nous faire dire que ce que vous faites, ce n'est pas correct, vous ne le faites pas de la bonne façon. Ce que vous faites, ce n'est pas le repas du Seigneur. Alors que c'est pour ça que vous devriez être là. Quand on lit comme faut le verset, ça dit, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, mais ça signifie que vous êtes là pour ça. Alors, verset 21, « Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » En d'autres mots, il n'est pas question de louange du tout ici. Alors, vous aviez des gens qui venaient se réunir pour la Pâque ici, et qui étaient tellement loin de Dieu, que dans le fond, ce qu'ils disaient, « Hey, c'est le temps de la bouffe. » Lorsque le pain arrivait, c'était pas quelque chose comme « Prenez-en un petit morceau, hein, brisé, et rappelez-vous du corps brisé du Christ. » Non, c'était « Prenez-en autant que vous pouvez, puis avalez, puis calez le vin. » En fait, ils buvaient tellement lors de la Pâque qu'ils étaient rendus ivres. Et malgré cela, Dieu disait toujours que c'était son Église. Les Corinthiens étaient son Église. Je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer ce genre d'attitude-là. Jusqu'à quel point les gens sont capables de s'éloigner de la bonne voie et que Dieu puisse continuer de travailler avec eux. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu d'ivrognerie ou de gloutonnerie le soir de la Pâque. Mais la Bible écrit que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. C'est le genre de choses que vous êtes supposé faire chez vous, à la maison, avant de venir à la Pâque que Paul leur dit. Si vous avez des maisons pour manger et pour boire, je m'assure toujours de venir à la Pâque alors que je n'ai pas faim, ou que lorsque je bois le vin, parce que je parle beaucoup lors de la Pâque, que je ne veux pas ce vin. Hein? Je fais très attention à ce genre de choses-là. Je ne veux pas que le vin soit en quelque sorte quelque chose de rafraîchissant pour moi, là, parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais toujours m'organiser pour prendre un petit peu d'eau pour m'assurer que, dans mon esprit, le vin est strictement pour la Pâque. Et je m'assure toujours d'avoir mangé un plein repas avant de venir, assez proche, avant de partir, de façon à ce que je ne vienne pas ici à la salle et que je sois affamé, ou encore que le pain goûte bon. Vous savez, le genre de « wow, c'est un bon pain sans levain, ça ». Ou encore, je me demande à quelle place nous avons acheté les mazos cette année. Hein? Ce genre de choses-là. Il ne faut pas que ce soit notre attitude. Il est donc possible qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent à la Pâque. Et c'est quelque chose que nous voyons dans les Écritures présentement. Et qui sont absolument non préparés. Et qui ne comprennent pas ce que ça signifie. Ils sont là tout simplement pour s'empiffrer. Un peu comme si c'était un repas à deux plats. Un que vous buvez et un que vous mangez. Alors, poursuivons maintenant au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire de façon irrévérencieuse, hein, sans vraiment distinguer ce qu'il fait, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il y a un grand nombre de membres qui vont mourir parce qu'ils ne discernent pas adéquatement le corps du Christ, le corps du Seigneur, tout comme j'en ai parlé lors des annonces. Alors, il y avait cette femme qui m'avait appelé à propos du corps et du sang du Christ, hein? Deux aspects séparés de son sacrifice. Il est écrit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de discerner cela. Et si j'étais le diable, je mélangerais, je fusionnerais les deux de façon à ce que les gens puissent oublier qu'il y a quelque chose qu'on appelle des péchés physiques. Si vous vous souvenez, Christ, en réalité, a oint des gens, il les a guéris en disant « Vos péchés vous sont pardonnés », alors qu'il les guérissait physiquement. Parce que si j'étais vraiment le diable, je ne voudrais pas que les gens discernent le corps du Christ, reconnaissant que s'il le faisait, hein, comme c'est écrit, par les meurtrissures sur son corps, nous sommes guéris, là, qu'il pourrait être oint et guéri, qu'il pourrait ne pas mourir aussi facilement que je veux les faire mourir. Parce que si moi, je suis le diable, alors je suis dans la business de faire mourir le monde. Ce que je voudrais, dans le fond, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent faire une certaine chose tout en pensant qu'ils ne mourraient pas, de façon à ce qu'ils puissent le faire et mourir. Voilà ce que je ferais. Et je ne voudrais pas que les gens puissent discerner le contraire ou le corps du Christ de façon appropriée. Parce que je ne veux pas que les gens soient soignés, soient guéris, hein, et qu'ils continuent à avoir la vie, que ce soit maintenant ou qu'ils soient guéris même spirituellement. On pourrait même ajouter ça par le sacrifice du Christ, hein, le côté du sang de son sacrifice. Avoir ainsi la vie éternelle de la façon dont le diable aurait pu l'avoir dans la famille divine. Alors, frères et sœurs, réfléchissez à ces choses-là. Hein. Les jours approchent maintenant, les jours des pains et levains arrivent. Jean 6, verset 47 maintenant. Nous allons commencer là, Jean 6, et au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alors Dieu, lui, n'est pas en affaire pour la mortalité, ce qui est le rôle du Dieu de ce monde. Mais Dieu sait très bien que le salaire du péché est réellement la mort, et non pas la vie à quelque part ailleurs. Et comme nous l'avons mentionné, le Dieu de ce monde veut que les gens pensent que lorsqu'ils sont morts, ils ne sont pas réellement morts, mais vivants à quelque part. Le vrai Dieu, lui, sait très bien que lorsque les gens sont morts, ils sont morts. Et lui, il veut vraiment les avoir vivants. Et encore ici, on voit encore l'ironie habituelle du diable qui met toujours les choses à 180 degrés par rapport à la vérité. Verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et bien entendu, les Juifs ont dit, « Comment est-ce que cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? » Est-ce qu'on parle de cannibalisme ici? Une genre de chose que les gens ne comprennent pas. Hein, vous avez cet homme-là là, qui est dans le couloir de la mort en Californie. C'est un cannibale. Il tuait et il mangeait ses victimes. Savez-vous pourquoi ils ne veulent pas le mettre à mort? Parce qu'ils se sont aperçus que lorsqu'il était un enfant, il était enfant d'un père alcoolique et que sa mère était une alcoolique alors que sa mère était enceinte. Et ces deux faits-là ont fait en sorte que ses avocats ont dit que peut-être il y avait une défense possible qu'ils pouvaient trouver dans tout cela, montrant que ses cellules du cerveau avaient été tuées pendant qu'il était encore dans le sein de sa mère et que ça a pu faire paraître des défauts pendant sa croissance et éventuellement, lorsqu'il est devenu plus vieux, croyez-le ou non, il y a un petit problème qui est apparu. Il tue et il mange des gens. Et peut-être qu'on ne devrait pas le mettre à mort parce qu'il est réellement un cannibale. Alors, je m'excuse, j'ai pas pu m'empêcher de vous parler de ça, là, en lisant ces différents versets. En fait, les gens interpréteraient les paroles du Christ un peu comme si c'était du cannibalisme, alors que ce n'est pas du tout ce dont il parle. Alors, verset 53 maintenant, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors nous ne faisons pas en réalité du cannibalisme avec Christ ici. Par contre, frères et sœurs, symboliquement, nous prenons ces deux symboles-là comme si nous mangions de la chair du Christ et buvions le sang du Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et pourtant, hein, juste une couple de chapitres avant, le chapitre 8, verset 31, Jésus disait à ces gens-là qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 43, il leur disait, on voyait qu'ils ne le comprenaient pas. Il leur disait, vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je dis parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Soit que nous ayons la vie en nous ou éventuellement nous allons tous mourir victimes de meurtre. Pas un sur 13, là. Toute personne qui ne demeure pas dans la vérité, qui n'est pas affranchie par la vérité. 2 Timothée et à d'autres endroits, on voit que nous avons été piégés par le diable, hein? Et que finalement, ceux qui n'ont pas été libérés par cette vérité-là vont mourir comme victimes de meurtre aux mains du grand meurtrier. Voilà pourquoi il est si fréquent, lorsque vous regardez les meurtriers, que vous trouviez des gens qui sont malade, terriblement malade. La prophétie nous dit que la société va en être remplie, hein, comme lors des jours de Noé. Ainsi en sera-t-il lors de l'avènement du Fils de l'homme. La terre était remplie de violence à ce moment-là. Et nous sommes en train de compléter un 360 degrés. Tous ceux qui font partie du système du diable, hein, de meurtre et de mensonge, vont mourir victimes de meurtre. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait voir. J'aimerais attirer votre attention sur un verset fascinant d'Ecclésiaste, au chapitre 3. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Dieu a fait les êtres humains d'une façon remarquable. Hein? Et c'est quelque chose que vous devez apprendre, ne serait-ce que pour vous-même. Et on le voit dans ce verset-là, Ecclésiaste 3 et verset 10. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais noté ceci dans la façon dont vous êtes fait. Vous êtes prêts? Alors, Ecclésiaste 3, 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. L'anglais dit merveilleuse ou belle. Alors, le printemps s'en vient. Nous sommes à la veille de voir ce genre de belles choses-là. Tous les gens qui sont âgés deviennent ridés, mais ils ont commencé par quelque chose de beau au départ. Il est dit qu'aucun bébé n'est laid. Hein? Donc, peu importe combien laide d'une personne peut-être, même les gens ont commencé par quelque chose de beau. Et on poursuit. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est écrit ici. Dieu a mis dans le cœur des hommes le désir de vivre à jamais, de vivre pour l'éternité, et c'est dans l'esprit et dans le cœur des hommes. Alors, frères et sœurs, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que si Dieu n'a pas fait une telle chose, vous voudriez vivre à jamais? Si Dieu n'a pas mis en vous le désir de la vie éternelle, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir la vie éternelle? On sait qu'il y a des gens qui deviennent tellement dysfonctionnels, hein, et déprimés, et confus, et mêlés, qu'ils décident de prendre leur propre vie. Mais, dans le fond, beaucoup de ces gens-là qui font ce genre de choses-là le font parce qu'ils pensent qu'ils s'en vont et ils se dirigent vers une meilleure vie. J'ai déjà connu des gens dans l'Église hein, qui ont pris leur propre vie. Alors, peut-être que ces gens-là n'étaient pas dans l'Église de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être tout simplement qu'ils pensaient qu'ils disparaîtraient doucement comme ça, là, d'un coup sec, et puis que tout redeviendrait mieux. Mais Dieu a mis l'éternité dans votre vie. Est-ce que vous savez réellement ce que cela signifie? Essayons de jeter un coup d'œil selon un angle différent. Les êtres humains n'ont pas été construits, si vous voulez, pour réellement accepter la mort. Et pourtant, on a vu, il est réservé à tous les hommes de mourir une fois, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsque nous regardons la deuxième partie de ce verset-là, là, qui a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On est donc devant une grande question. Hein? Dieu nous a fait pour vouloir vivre à jamais, mais nous n'arrêtons pas de mourir. Comment comprendre une telle chose? Hein? Je ne comprends pas. Et Dieu a bien dit que les choses se dérouleraient comme ça. Hein? Il nous a fait de façon à ce que nous puissions tous mourir. Mais il ne voulait pas que ce soit ça qui se passe. Jamais ça n'a été son intention. Mais c'est comme ça que les choses sont. Il ne nous a pas créés pour que nous voulions mourir. Et pourtant, les êtres humains regardent ça et tout ce qu'ils voient, ce sont des gens qui meurent, qui meurent, qui meurent. Ils se disent, mais ça n'a pas de sens. Alors, le résultat de tout ça, les gens disent, parce que, dans le fond, je veux vivre à jamais, je refuse d'accepter que la mort est la mort. Ça doit vouloir dire quelque chose d'autre, parce que moi, je veux vivre à jamais. Je veux que mon temps continue toujours. Dans le fond, Ponce de Léon avait trouvé la solution. Hein? Il devait y avoir une fontaine de jouvence à quelque part. Et je la veux. Et si les médecins ne sont pas capables de me la donner à moi, alors je vais trouver une autre façon pour faire de la mort quelque chose d'autre que la mort. Et voilà ce que font les gens. Et tout cela commence par des dictons comme « la mort est un vieil ami ». Alors que c'est notre ennemi mortel et que c'est quelque chose que Dieu n'a jamais voulu. Alors, vous allez avoir les gens qui vont se faire faire des transplantations cardiaques et toutes sortes de choses et d'efforts, vont déployer des efforts héroïques pour essayer de demeurer en vie. Je me souviens que je me tenais à côté du lit d'une vieille dame en 1978. Elle était âgée de 89 ans. C'était une dame merveilleuse. Elle était dans l'église. Tout le monde l'aimait, mais elle était en train de mourir. Et elle m'avait dit, « Monsieur Pack, je ne veux pas mourir. » Alors, je me souviendrai toujours de ça. Ça m'a frappé. J'avais pris ma Bible et je m'étais rendu à Hébreux 3:11. Puis elle me disait, c'est mon corps qui est en train de mourir et de m'abandonner. Elle le savait. Et ça la frustrait parce qu'elle était vivante dans son esprit. Elle était couchée dans son lit en train de mourir tranquillement. Ce qu'elle a fait d'ailleurs quelques semaines plus tard, si je me souviens bien. Et je me souviens avoir pensé, voilà cette personne qui veut vivre, mais qui n'a pas pu vivre parce qu'elle avait un rendez-vous avec la mort. Alors, Apocalypse 20 maintenant. Hein? Apocalypse 20, nous allons lire quelques derniers versets. Et nous allons faire Apocalypse 20 et verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous savez, il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui sont mortes dans la mer. Lorsque l'Indianapolis a coulé pendant la guerre, il y a eu 1100 personnes qui sont mortes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un nombre incalculable de bateaux qui sont disparus avec leur équipage et les personnes à bord qui sont mortes. C'est donc un verset qui est peut-être beaucoup plus significatif à première vue qu'on le pense. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous savez, vous en avez eu 1500 seulement à bord du Titanic. Avec l'Indianapolis, les deux ensemble, ça fait déjà 2600 personnes. C'est comme un petit village. Et le verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. » Alors, ça, c'est une mort. Et c'est le genre de rendez-vous que vous ne voulez pas prendre. Et c'est un rendez-vous qui n'est pas obligatoire. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Malheureusement, frères et sœurs, il y en a qui vont avoir un rendez-vous une deuxième fois. Et il n'est pas réservé aux hommes de mourir une seconde fois. Vous savez, j'ai déjà vu des gens dans l'Église de Dieu qui se sont fait prendre par la fausse doctrine, le faux concept du salut universel. Ils sont incapables de comprendre que Dieu pourrait mettre à mort des gens. Donc, dans un certain sens, ils concluent que la seconde mort est une représentation de quelque chose qui ne signifie pas réellement une mort, parce que Dieu est amour et que Dieu ne détruirait jamais ses enfants qu'il aime. Ils se disent, après tout, vos enfants aussi pêchent. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Est-ce que vous mettriez vos enfants à mort? Vous leur donnez la fessée, mais vous ne les mettez pas à mort. Donc, Dieu ne peut pas réellement mettre les gens à mort. Donc, ça doit signifier quelque chose d'autre, parce que Dieu ne veut pas tuer ses enfants, pas plus que n'importe quel être humain rationnel veut tuer ses propres enfants qui pêchent. J'ai vu toutes sortes de logiques tordues de la part des gens qui ne sont pas capables de comprendre que le plus grand acte d'amour dont Dieu peut faire preuve envers les gens qui ne veulent pas se forger un caractère saint et juste, c'est de les endormir comme on endort un animal pour les délivrer de leur misère. Alors, désolé d'employer cet exemple-là, mais c'est très séant ici. On endort un chien à un moment donné pour le faire mourir, et Dieu dit, « Je ne peux les laisser vivre pendant toute l'éternité. » Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rendre, eux, ainsi que tous ceux qui les entourent, misérables. Et étant donné qu'il n'y a pas question de les faire retirer pendant l'éternité non plus, parce que ça ne ferait absolument rien de bon, parce que vous auriez le problème des parents et des enfants, et des enfants avec les parents qui verraient ceux qu'ils aiment en train de retirer pour toute l'éternité. Vous savez, si un de mes enfants ne réussissait pas à se rendre dans le royaume de Dieu, je ne sais pas comment je pourrais être heureux pendant toute l'éternité. Surtout si, non seulement j'avais la mémoire de cet événement-là, mais si je les voyais en plus en train de rôtir pour l'éternité. J'ai l'impression que ça réduirait un peu les joies de la vie éternelle pour moi, ou pour mes parents, ou pour mon frère, ma sœur, ou n'importe qui a déjà été sauvé. Parce que lorsque Dieu les détruit, il faut se rappeler de ça, il détruit aussi la mémoire des parents qui pourraient se retrouver dans, dans cette catégorie-là. Chapitre 21 et verset 4, c'est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » On parle du moment où la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, verset 2 ici. Alors c'est un passage que je lis à chaque cérémonie funéraire. Donc éventuellement, toutes les souffrances, tout cela va être terminé. Alors allons maintenant dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1 et verset 10. 2 Timothée, chapitre 1, et nous allons commencer au verset 9. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Alors, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Pour pouvoir abolir la mort, Christ a été obligé d'expérimenter, de traverser quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté de toute l'éternité. Le salaire du péché, l'amende de ce péché-là est tellement grande, et c'est une question que vous pourriez vous poser, à quel point est-ce que cette amende-là est grande, que vous n'avez plus le droit de vivre. C'est la cessation, l'arrêt de la vie. Et ça a pris la mort pour nous permettre de vivre. Parce que les gens n'ont pas cru ce que Dieu a dit à propos de la voie vers la vie. Le même Dieu qui avait dit à Adam et à Ève, « Ne mangez pas du fruit du mauvais arbre, sinon vous allez mourir. » Ce Dieu-là qui savait que s'il mangeait du mauvais arbre, tout de suite vous aviez cette partie de la formule qui entrait immédiatement en action. Et c'était que lui devrait mourir pour eux s'ils se rebellaient contre lui. Alors Christ savait tout cela, parce que c'était lui le Dieu de l'Ancien Testament. C'était lui qui était dans le jardin d'Éden, qui leur disait, « Ne faites pas ça !» Et il savait que si le péché arrivait, qu'il devrait faire quelque chose qu'aucun être divin n'avait jamais fait avant lui, c'est-à-dire mourir. Alors rendons-nous dans 1 Corinthiens maintenant, au chapitre 5. 1 Corinthiens 5 et verset 6, nous allons avoir deux versets finaux, un après l'autre. 1 Corinthiens 5 et verset 6. N'oublions jamais ça, frères et sœurs, alors que nous approchons de la période des pains sans levain. Verset 6 de 1 Corinthiens 5. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? J'aurais bien aimé que l'Église comprenne ça lorsqu'on en est venu aux discussions de doctrine, frères et sœurs. Mais vous connaissez, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez, si vous aviez demandé à toute l'Église, là, qui était à environ 150 000 personnes il y a plus de 14 ans de cela, si vous aviez demandé à l'Église, est-ce que vous croyez qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Sans doute que l'Église aurait dit oui, hein, il le croyait. Mais on peut s'apercevoir que pratiquement la majorité ne le croyait pas réellement. Alors c'est une doctrine qui est vraie, et c'est également vrai pour notre caractère. Lorsque vous laissez le levain entrer dans votre caractère, ça vous détruit. Peu importe ce que peut être le péché, l'attitude, la conduite, le comportement qui entre dans ma vie ou dans votre vie. Si c'est mauvais, ça va s'étendre à l'intérieur de vous, à moins que vous vous en répentiez. Alors le verset 7 maintenant. Alors faites disparaître le vieux levain. Alors vous vous débarrassez du levain physique, là, c'est de ça que ça parle ici. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Hein, c'est le but de tout ça. Puisque vous êtes sans levain, alors pourquoi est-ce que nous ferions ça? Pourquoi nous nous débarrassons du levain? Hein? Quelle est la raison pour laquelle nous faisons cela? Alors la voici. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi vous faites le ménage dans votre vie. Parce que Christ a, en quelque sorte, lavé notre pensée, nous, aujourd'hui, avec son aide, devons maintenant nettoyer aussi notre vie. Nous devons nous débarrasser de tout le levain qui s'y trouve. Nous ne pouvons même pas en laisser une petite partie parce que nous savons qu'un peu de levain fait lever toute la pâte à l'intérieur de la vie d'une personne. Autrement dit, vous devez faire le ménage dans votre maison totalement. Alors, Jean 3,16 maintenant. Voici quelque chose que j'ai appris dans l'Église presbytérienne. Vous avez quelque chose, un passage ici que des centaines de millions de personnes citent et que personne ne croit réellement. Jean 3 et verset 16. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Jean 3 et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait jamais été même une fraction de seconde de toute l'éternité sans son Fils, et il a décidé de le donner, son seul Fils, le seul qu'il avait. J'ai deux fils, et il est inimaginable pour moi d'avoir à en donner un et qu'il m'en reste un avec une fille. Donc Dieu a donné son seul Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres mots, il a laissé son Fils périr de façon à ce que quiconque croyait en lui ou croirait en lui ne périsse pas. Donc Dieu a tant aimé le monde que c'est ce qu'il a fait. Et le monde dit que périr, ça signifie avoir la vie éternelle à quelque part d'autre, hein, à un autre endroit. Je suis désolé, mais c'est pas ce que ça signifie. Ça signifie mort. Ça signifie aucune pensée. Ça signifie ne plus avoir à se préoccuper de l'éternité qui avait été placée dans nos cœurs et dans nos esprits, le désir de vivre pour toujours. Ça signifie plus rien du tout, plus de louange de Dieu, plus de connaissance de quoi que ce soit, tout est fini. Alors quelle est l'importance de l'amende du péché, de la punition? Les êtres humains n'ont plus le droit de vivre. Mais parce que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, ce qui nous permet aujourd'hui d'observer la Pâque et de mieux comprendre que c'est la vie éternelle qui nous attend et non pas la mort.